pour cet accueil et merci pour la joie qui est la mienne, qui est celle aussi de mon épouse, de vous avoir rejoint aujourd'hui pour ce culte d'installation qui est marquant et qui est marquant dans la vie d'un pasteur. Alors c'est vrai que moi j'ai 40 ans de ministère pastoral ou même un peu plus, donc évidemment, Michael me demandait tout à l'heure, me disait, mais bon, c'est la première installation, elle est un peu impressionnante, les autres ça ira mieux. Et puis je lui dis non, pas du tout. En fait, en général, ça va accroissant plutôt l'angoisse, parce que, ou la crainte, ou toutes sortes de choses qui peuvent nous habiter au fil des rencontres que nous avons avec telle et telle église. Et puis parce que nous portons en nous-mêmes aussi des espoirs et puis parfois des déceptions. Et ça peut aussi arriver. Pour ce matin, je vais vous partager un texte que c'est Michael qui l'a choisi, dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 14. Et je lirai à partir du verset 22. Et je le lis dans la version de la Nouvelle Bible Second. Ensuite, Jésus obligea les disciples à monter dans le bateau et à le précéder sur l'autre rive pendant qu'il renverrait les foules. Après avoir renvoyé les foules, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Le soir venu, il était encore là, seul. Le bateau était déjà à plusieurs stades de la terre, malmené par les vagues, car le vent était contraire. À la quatrième veille de la nuit, Jésus vint vers eux en marchant sur la mer. Et quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent « C'est un fantôme !» Et dans leur peur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt, « Courage, c'est moi, n'ayez pas peur. » Pierre lui répondit, « Si c'est toi, ordonne-moi de venir vers toi sur les eaux. » « Viens, dit Jésus. » Pierre descendit du bateau, marcha sur les eaux et vint vers Jésus. Mais en voyant que le vent était fort, il eut peur et comme il commençait à couler, il s'écria, « Seigneur, sauve-moi !» Aussitôt, Jésus tendit la main, le saisit et lui dit, « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Ils montèrent dans le bateau et le vent tomba. Et ceux qui étaient dans le bateau se prosternèrent devant lui et dire « Tu es vraiment fils de Dieu. » Seigneur, à qui d'autre irions-nous ? Tu as les paroles de la vie éternelle. Amen. En relisant ce texte, il m'est venu l'idée que nous avons un récit d'accompagnement et Jésus accompagne cette barque de trois façons. Et ça vient faire écho un peu à la façon dont, dans votre Église, vous avez défini la mission de vos pasteurs avec trois verbes qui sont utilisés, que nous avons déjà entendus tout à l'heure, nourrir, conduire, prendre soin. Là, dans ce récit, la nourriture a déjà eu lieu puisque ce récit fait suite à la multiplication des pains, juste après. Et on est encore sur cette fin de récit de la multiplication des pains où Jésus renvoie les foules et tout de suite après s'enchaîne ce récit de la tempête et de la marche de Jésus sur les eaux. Dans ce récit, il y a effectivement question d'accompagnement sous trois autres verbes que je choisis moi. Le premier, c'est montrer la route. Le deuxième, c'est conduire ou prendre soin ou rejoindre plutôt. Montrer la route, rejoindre. Et puis le troisième, ce sera soutenir. C'est l'action que Jésus entreprend auprès de ses disciples. dans cette barque-là, auprès de ces gens qui sont là. Montrer la route, rejoindre, soutenir. Mais derrière cette action de Jésus auprès de ses disciples, il y a évidemment aussi l'action de tout pasteur, de tout chrétien qui a en lui un cœur pour conduire, aider, accompagner. Voilà que ces trois façons que Jésus a d'accompagner ses disciples, montrer la route, rejoindre, soutenir, ces trois façons que Jésus a d'accompagner ses disciples, nous les trouvons justement dans la première parole qu'il leur adresse en leur demandant de le précéder sur l'autre rive. Ça, c'est « il montre la route ». Et puis, il s'absente, bien sûr, il est loin d'eux, avec quand même, il ne faut jamais l'oublier, cette promesse de les rejoindre à un moment donné. Cette parole-là leur montre la route. Puis, il y a, au cœur de la tempête, cette parole échangée entre Jésus et ses disciples, puis Jésus et Pierre. Mais d'abord, Jésus et ses disciples. Et là, Jésus les rejoint, vient se mettre à leur niveau, là où ils en sont dans leur frayeur, dans leur doute, dans cette tempête. Il les réassure dans la certitude que la traversée périlleuse de leur vie est conduite. Il les rejoint. Et puis cet accompagnement va prendre la forme d'un soutien même physique, avec deux expressions. Il tend la main, il saisit. Deux fois pour dire combien le Seigneur est proche, combien il est soutien lorsque nous en avons besoin. Se trouve ainsi présentée une façon de nous dire la présence du Seigneur dans nos vies, la présence indispensable à notre croissance, dans notre foi et dans la vie de l'Église. Alors d'abord le premier vers, montrer la route. Jésus donne l'ordre aux disciples de partir et de le précéder sur l'autre rive du lac de Tibériade. Montrer la route, c'est effectivement indiquer une direction à suivre. Même si c'est une route maritime, il y a quand même une route. Et Jésus envoie les disciples. Et vous avez remarqué dans le texte, le récit d'ailleurs insiste un peu, Matthieu insiste, il reste à l'écart, seul. Jésus a besoin de ce temps de retraite, de repli, un temps à part, un temps calme, loin des foules, loin de toutes les demandes, les sollicitations qu'il reçoit, et il se met à part. Et il se met à part pourquoi ? Il se met à part pour prier. Alors moi, j'aurais aimé être un peu petite souris là pour savoir quelle était la prière de Jésus, son contenu. Pourquoi ? Pour qui priait-il ? Il y avait certainement bien des raisons pour Jésus de prier. Il venait d'apprendre, juste avant la multiplication des pains, que Jean le Baptiste avait été exécuté. Et l'exécution du Baptiste, c'est quand même quelque chose qui le touche, parce que ça vient dire aussi le poids de la fidélité, le poids du service jusqu'à la mort. Et ça vient l'habiter, lui, dans sa propre destinée. Mais il y a aussi, je pense, cette prière, parce que Jésus toute sa vie est tissée de cette prière, de cette relation d'intimité avec le Père. Sans cette relation-là, il n'y a pas en Jésus la capacité de pouvoir accomplir sa mission correctement. Être dans la prière quotidienne avec le Père, c'est pour lui fondamental. Tout à l'heure, dans les engagements, il a été rappelé qu'effectivement, prendre du temps pour la prière ou lire la Bible, ce n'est pas du temps volé aux membres de l'Église, mais c'est du temps peut-être au contraire donné, mais autrement, aux membres de l'Église. Mais ce qui me plaît, ou ce que j'envisage le plus encore dans la prière de Jésus à l'écart, c'est qu'il prie pour ses disciples. Et je me dis que l'Église ne tient, et nos ministères ne tiennent, et notre vie chrétienne ne tient que parce qu'il y a à côté de nous, avec nous et pour nous, le grand intercesseur. Celui dont la lettre aux Hébreux va nous dire qu'il est le grand prêtre qui intercède pour nous. Et je pense que c'est cette fonction-là que Jésus vient occuper à ce moment-là, alors qu'il a envoyé ses disciples au casse-pipe, j'allais dire presque, en grand danger. Jésus échappe à la vue tangible des disciples, mais il reste présent bien autrement. Et dans les évangiles, si nous lisons bien, il y a souvent cette tension entre la présence de Jésus et puis cette absence, ce retrait. La fête de l'Ascension, pour moi, manifeste ça. Il y a à la fois une présence de Jésus autrement, et en même temps, il disparaît de notre vue. Jésus utilise plusieurs paraboles pour dire que le royaume de Dieu est comme un homme qui part en voyage. Il y a cette absence, mais qui n'est pas un oubli, qui n'est pas un abandon, mais qui est une autre façon de se rendre présent. Je pense que c'est important parce que dans cette absence, visible, visuelle, mais une présence autrement, eh bien, Jésus nous accompagne quand même par une parole de promesse. De la même manière qu'il a demandé à ses disciples de s'en aller sur le lac sans lui parce qu'il le précéderait, il précise qu'il viendra donc. C'est une autre manière de dire qu'il va les rejoindre à un moment. Je pense qu'il nous envoie vers de nouveaux horizons, comme il a envoyé ses 12 sur le lac de Tibériade. Il nous envoie vers de l'inconnu. Et la tempête, pour moi, sur le lac qui se lève au moment où Jésus envoie ses disciples, elle fait partie de, pour moi, l'image du non maîtrisé de la vie, du danger qui peut même inclure d'avoir à donner sa vie, comme le récit d'exécution du Baptiste le disait au début du chapitre 14. Mais nous sommes conduits. Et ça, c'est une nouvelle extraordinaire. Nous ne sommes pas un îlot de hasard au milieu d'un océan de nécessité. Il y a cette prière de Jésus pour nous, sa parole pour nous, sa fidélité comme assurance. Et cela peut ouvrir à chacun de nous un espace dans le cœur et dans la vie. À un moment, certes, Jésus les laisse seuls, ses disciples, et ils ne sont habités que de cette seule assurance que Jésus va les rejoindre. Mais il va, lui, il va son propre chemin, ce chemin de prière dont je parlais tout à l'heure. Et cette attitude où Jésus laisse ses disciples se dépatouiller tout seuls, c'est quelque chose que nous avons parfois de la peine à accepter. Mais il nous faut l'accepter. Il nous faut accepter que le Seigneur ne soit pas toujours là pour, comme il va faire pour Pierre, saisir la main. Quelque part aussi, il nous laisse. Et il nous laisse faire. Et il ne fait pas, surtout pas, à notre place. Mais il fait avec nous, pour nous. Et il nous rend responsables aussi de nos propres actions. Je pense que c'est quelque chose d'important parce qu'il y a ce va-et-vient et cette tension entre cette présence active, attentive, aimante de Jésus et puis cette part de retrait que nous vivons et que nous vivons aussi dans notre vie de prière. Il y a des temps où la prière est facile, elle coule toute seule et il y a des temps, en tout cas peut-être pas pour vous, mais en tout cas pour moi, la prière se fait plus difficile, plus ardue, peut-être plus silencieuse. Elle est parfois de l'ordre de la fête, elle est parfois de l'ordre d'un combat. Et c'est cela que nous avons toujours à vivre. La vie chrétienne est à la fois une fête et un combat. Un combat aussi contre tout ce qui peut défigurer, tout ce qui peut anéantir, tout ce qui peut aussi venir briser la vie de Dieu en nous. Il est la quatrième veille de la nuit. La quatrième veille de la nuit se situe entre 3h et 6h du matin. C'est la fin de la nuit. C'est une période dure parce qu'il y a déjà toute la fatigue accumulée d'une nuit qui n'a pas pu être celle de repos. Et puis en même temps, c'est la partie la plus noire de la nuit. Tout le monde dort, il n'y a plus de lumière. Et sur le lac de Tibériade, donc, certainement qu'il n'y a aucun village éclairé. Aucun signe de repère pour ces disciples perdus au milieu de la tempête. Aucun point de repère donc, rien qui pourrait aider les disciples à avoir une petite idée de là où ils se trouvent. Et ils se trouvent, nous dit-on, à plusieurs stades, donc à plusieurs centaines de mètres de la rive. Ils sont loin d'être arrivés au bon port, là où Jésus les attend. Et ils risquent, puisque le vent est contraire, de rester longtemps au milieu du lac. Mais ce n'est pas tout. Puisque le vent se met à souffler, puisque les vagues sont abondantes, et puisque le vent vient du mauvais côté et les empêche d'avancer, ils risquent donc d'être complètement désorientés, perdus. Ils risquent d'être pris par, submergés par l'angoisse. Les vagues risquent de submerger cette petite barque et de la faire couler. Et le danger est réel. Et si cela arriverait, ce serait la mort assurée, ou en tout cas certainement quelque chose de très difficile. Les disciples ont de bonnes raisons d'avoir peur. Et cette situation peut évoquer pour nous des situations personnelles de grande inquiétude que nous vivons, que nous avons vécues, que nous allons vivre certainement devant nous. Dans ces situations, nous avons l'impression que le Seigneur est loin et que nous sommes bien seuls, que tout nous échappe, que nous perdons pied, que nous ne contrôlons plus rien, que nous sommes désemparés. Et alors nous sommes secoués comme cette barque par les vagues. Pourtant, de manière très paradoxale, ce sont bien vers ces dangers que Jésus a orienté ce petit groupe de disciples. Oui, la vie chrétienne n'est pas un nirvana où tout baignerait, où tout planerait, mais la vie chrétienne est aussi une lutte qui sollicite notre courage et notre confiance. Le deuxième verbe, c'est le verbe rejoindre. Le Seigneur voit ses disciples en difficulté et il va entamer un parcours vers eux. Et il va l'entamer de deux façons. Jésus se rend à nouveau présent, sous une forme mal reconnue par les disciples, je vais y revenir dans un moment, et il va se rendre aussi présent à eux, non pas seulement physiquement, mais par la parole. Et ça, ça nous rejoint toujours, ça doit toujours nous rejoindre. C'est toujours par la parole de Dieu que nous sommes rejoints. C'est toujours par cette parole que nous sommes encouragés, que nos peurs peuvent être non pas complètement oubliées, parce que parfois les peurs nous habitent encore longtemps, mais qu'elles peuvent être surmontées, ou en tout cas qu'elles ne peuvent plus avoir ce caractère paralysant. Jésus s'approche physiquement et par sa parole. De la même manière qu'il va s'approcher de nous aussi en nous rendant sensibles à sa présence. Il y a des temps, je disais tout à l'heure, la prière peut être un combat, elle est aussi des fois une fête parce que nous sentons bien que par l'Esprit Saint, il y a une communion qui s'instaure. Et ces moments-là sont des moments bénis dont nous devons toujours garder mémoire. Et puis il y a effectivement l'autre part de combat. Et là, il voit, qu'est-ce qu'il voit les disciples lorsque Jésus les rejoint ? Il voit un fantôme. Je m'arrête juste un tout petit peu là-dessus. Dans le Nouveau Testament a été écrit dans la langue grecque, et la langue grecque utilise pour le mot fantôme le mot fantasma. Ça fait vraiment penser à nos fantasmes. Fantasma, en grec, c'est une illusion d'optique, c'est-à-dire ça vient d'un verbe qui veut dire apparaître, apparition, apparaître. C'est exactement en fait le même verbe que nous avons dans le mot épiphanie. Épiphanie ou fantôme, c'est pareil. Ça veut dire apparaître, mais et autant la théophanie, où c'est quelque chose de beau, c'est l'apparition de Dieu, autant le fantasma, c'est l'apparition d'une créature dont on ne sait pas trop qui elle est. Et en fait, c'est souvent le cas dans notre vie. Nous avons une perception parfois troublée, biaisée de la réalité. Et cette réalité, pour les disciples, c'est Jésus, en chair et en os, qui les rejoint là sur l'eau. Et pour eux, cette réalité, elle est voilée. Elle est complètement recouverte du voile du trouble, de l'anxiété, de la peur, de l'incompréhension, de la non-foi. Parce que c'est bien de la foi dont il est question au centre de ce récit. Et cette réalité, Jésus vient doucement la remettre en avant. Combien de fois dans nos vies, nous sommes pris par des images? Et surtout aujourd'hui, parce que nous sommes dans un monde où l'image a beaucoup de place, et l'image souvent génère la peur. Nous voyons bien à travers les reportages que nous pouvons avoir sur tel ou tel événement terrible. Mais l'image aussi, et c'est aussi à travers tout ce qui peut se balader sur les réseaux sociaux ou autre chose, L'image est souvent génératrice de peur. Et je comprends pourquoi Dieu, dans ses commandements, nous interdisait de faire des images. Parce que l'image enferme, et l'image, elle nous surplombe, elle vient comme nous investir. Et Jésus, lui, il vient vers ses disciples, non pas pour leur faire peur, mais au contraire pour les rassurer et pour les sauver, pour les délivrer. Donc, méfions-nous de nos images, y compris des images que nous avons les uns sur les autres. L'image du bon pasteur, l'image de la bonne épouse de pasteur. Ma femme est là, elle sait de quoi je parle. J'ai eu 3 enfants, mes 3 enfants aussi, ils ont des fois souffert que, parce qu'on s'attendait à ce que mes enfants ils soient un peu conformes à l'image du papa, etc. Et, sauf que c'est le papa qui a été appelé, mais eux, ils suivent l'appel, ils suivent comme ils peuvent, mais ils n'y adhèrent pas forcément. Et parfois, les églises ont sur les pasteurs et sur leur propre communauté une image qu'elles veulent absolument garder. Et nous voyons aussi que derrière ces images trop fortement solides se cachent des réalités malheureusement moins glorieuses. Et les actualités nous le font bien pressentir. Donc, renonçons, essayons de travailler sur ces fausses images que nous nous faisons de nous-mêmes, que nous essayons de donner aux autres, pour recueillir plutôt ce que Dieu veut faire de nous, tel que nous sommes, à partir de notre petite foi, comme il le dira à Pierre. Je pense que c'est important. Et cette image offerte à l'esprit par ce fantôme, c'est une image qui s'écarte de cette réalité et qui nous en éloigne. Et justement, soyons toujours très, très vigilants par rapport à la culture de l'image qui est celle de notre monde d'aujourd'hui. Et Jésus, je disais, vient avec sa présence, il vient avec sa parole. Et là, une parole magnifique. Nos traductions ne rendent pas très bien. Jésus dit tout simplement, « Je suis. Je suis. » Lorsque les Juifs d'Alexandrie ont voulu traduire l'Ancien Testament en grec pour se faire comprendre de leurs contemporains, et puis d'eux-mêmes parce qu'ils avaient un peu perdu les racines juives et hébraïques, ils ont dû donc avoir recours à une traduction. Vous savez, ce fameux épisode où Moïse voit un buisson qui flambe et qui ne se consume pas, et où il entend une voix qui lui dit d'enlever ses sandales et de s'approcher, et où, à un moment donné, Moïse va dire « Quel est ton nom ?» La voix va lui répondre « Je suis celui qui suis. » La traduction en grec de ce texte, elle dit « Je suis. » Les mêmes paroles, les mêmes mots que Jésus va utiliser. Dans l'évangile de Jean, il y a 7 fois Jésus qui affirme « Je suis. » Alors, vous les connaissez, les 7. Je suis le chemin, la vérité, la vie. Il y en a 7, hein, on n'est pas arrivé au bout. Je suis la lumière du monde, la porte, le pain, le bon berger. Oui, il y a je suis le cep aussi. Hein. Le pain, lumière, porte, berger. D'ailleurs, si on prend l'évangile de Jean et à tous ces « je suis » qui se suivent les uns aux autres, il y en a 7, et au cœur de ces 7, c'est-à-dire la 4e place, c'est « je suis le bon berger ». Et le bon berger vient un peu, tous les autres « je suis » éclairent un peu ce que ça veut dire qu'être berger. Je crois que c'est un peu comme ça que moi je le comprends. Et puis le premier « je suis », c'est « je suis le pain », et puis le dernier, c'est « je suis le cep ». Pas tout à fait un hasard non plus. Il y a une cohérence. Et je pense que ces « je suis » viennent affirmer l'identité profonde de Jésus. Est-ce que nous croyons que Jésus est lui ? On voit bien que ça se terminera bien comme ça, puisque le récit va s'achever par une proclamation. « Tu es !» Et tu es quoi ? Fils de Dieu. Extraordinaire. Donc ce « je suis » va trouver un accomplissement dans le cœur des disciples, qui vont enfin saisir un peu qui est ce Jésus, autrement qu'un guérisseur et un type qui, qui est gentil et puis qui parcourt en sandales les routes de Galilée. C'est « Je suis ». Dieu en personne est pleinement présent dans ce Jésus. Et alors le texte, une fois que cette affirmation extraordinaire « Je suis » est posée, le récit de Matthieu va se focaliser sur Pierre. Et Michael me disait, oh, bah, Pierre, des fois, moi, je m'y retrouve un peu dedans, hein, voilà, parce que je suis, parce qu'on peut être, Pierre est, peut être inconstant, il peut être bravache, il peut être un peu velléitaire, il a des envies, puis il va pas jusqu'au bout de ses envies. Mais en même temps, c'est un gars que j'aime bien parce qu'il a de la fougue, il a de l'audace, il est le premier à confesser sa foi et c'est quand même pas rien non plus. Donc c'est quelqu'un de sympathique. Mais en même temps, on sent bien qu'il a des fragilités. Et ce Pierre impulsif qui reniera Jésus trois fois, il est quand même le premier là à aller se mouiller au sens propre et au sens figuré, et c'est lui qui prend l'initiative. Et Pierre dit à Jésus, là dans le dialogue aussi, c'est assez étonnant, « Si c'est toi, mot à mot, encore une fois, dans le texte grec, si tu es, si c'est bien ce que tu dis que tu es, c'est-à-dire fils de Dieu, c'est-à-dire pleinement Dieu présent au milieu des hommes, si tu es. » On peut entendre ce « si tu es » avec une expression, eh bien, je me lance, je me risque, je te fais confiance. Un peu comme lorsque l'on débute un ministère pastoral, eh bien, on prend des risques, on fait confiance, on ne sait pas ce que sera l'avenir. Personne ne le sait, sauf Dieu. Il y a une chose que nous ignorons totalement, c'est effectivement de quoi notre avenir sera fait, sauf qu'il est en Dieu, sauf que Dieu nous fait des promesses et que ces promesses tiennent bon. Pierre prend un risque, et ce risque, ben, il va vite arriver au bout de ce risque. Il va être obligé, au bout d'un moment, en voyant ce vent se diriger contre lui, avoir ce cri, « Seigneur, sauve-moi ». Et ce cri, « Seigneur, sauve-moi », je crois qu'il nous faut, avec beaucoup d'humilité, souvent le pousser. Alors, il ne s'agit pas de demander à Dieu de nous sauver 36 fois, une fois que nous avons compris, que nous avons accueilli la réalité du sacrifice de Jésus pour nous, pour chacun de nous, ce salut n'est plus en cause. Mais combien de fois nous avons besoin que le Seigneur vienne vers nous pour nous sauver du danger qui menace? Si nous relisons le livre des psaumes, il est tout plein de ces cris-là. Sauve-moi, non pas pour mon salut éternel, ça, Dieu ne revient pas dessus, mais sur tous ces moments où je suis dans des passages difficiles. Et la tentation, alors, serait grande en tant que pasteur de répondre par nos propres ressources à tous ces dangers qui nous entourent ou toutes ces difficultés qui nous assaillent et devant lesquelles nous ne savons pas bien comment réagir. Je crois que, y compris lorsque, pour nous-mêmes ou pour d'autres, nous sommes en présence de ces gens qui ont besoin de nous et qui voudraient presque nous dire « Éric, Michael ou Patrick ou n'importe qui, sauve-moi !» Il nous faut toujours les ramener vers Jésus lui-même. Lui seul peut sauver. Nous ne pouvons qu'encourager les autres à pousser vers Jésus ce cri qui est un cri de vie aussi. « Seigneur, sauve-moi !» car lui seul peut sauver. Jésus a rejoint par sa présence et sa parole, il a rejoint par son action, il a rejoint en se mettant au niveau où nous en sommes, il nous rejoint, jamais en surplomb, mais toujours en nous prenant la main. Et c'est ainsi, je terminerai par là, qu'il soutient Pierre. Aussitôt, Jésus étendit la main et le saisit. J'aime beaucoup cette image. J'aime beaucoup cette image. Jésus tend la main et saisit. Non, Jésus ne nous laissera pas tomber. Même lorsque parfois les moments seront plus compliqués, lorsque nous n'y verrons pas toujours très clair, lorsque nous demanderons au Seigneur sa lumière et qu'elle tardera à nous être donnée, ou bien peut-être que nous ne serons pas assez réceptifs aussi à sa réponse. Tant que, même quand cette peur de mourir nous tenaillera, le Seigneur nous prend par la main et nous saisit. Pierre crie la vérité qui est en lui, « Seigneur, sauve-moi », et Jésus l'entend. On peut un peu imaginer qu'il le saisit par le poignet, qu'il le tient fermement pour ne pas qu'il se noie. Cette poignée de main inoubliable qui sauve de la mort, de toutes les morts, le tire vers le haut, le tire vers la vie. Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ? Pourquoi as-tu douté ? Mais rien qu'en mettant ce dialogue en place, Jésus continue d'avoir Pierre comme partenaire, comme un partenaire avec lequel il est encore possible de parler. Dans ce homme de peu de foi, il n'y a pas tant une condamnation qu'un constat. Tu es quelqu'un qui a besoin de grandir dans la foi. Comme moi aussi, j'ai besoin tous les jours de grandir dans la confiance, dans la foi. Et peut-être que pour Pierre, il y a aussi un autre élément qui est à travailler, c'est le verbe douter en grec, il peut se traduire de deux façons. On le traduit beaucoup par douter, ce qui est juste, mais il a en lui l'idée d'hésiter, être pris entre deux forces contraires. Et le peu de foi, c'est ça, c'est douter, c'est ça, c'est-à-dire ne pas oser prendre le risque. Au départ, les disciples ont pris le risque, ils ont pris leur barque, ils sont partis en pleine nuit sur le lac de Tibériade, ils ont pris ce risque. Puis le risque est devenu réel avec cette tempête. Pierre, lui, a pris à un moment donné le risque en marchant sur l'eau, et puis il a hésité, et puis il s'est pris entre deux éléments, la confiance en Jésus qui était devant lui, et puis l'instinct de survie qui était aussi qui le retenait de l'autre côté. Et puis Pierre, c'est une pierre, hein, un roc, une pierre sur de l'eau, ça plonge. Mais ce doute, Jésus l'a rejoint. Cette hésitation, Jésus l'a comblée, il l'a surmontée, il est allé au-devant de Pierre. Et cette hésitation, elle est vaincue parce que Jésus a fait tout le chemin vers lui. Vous savez qu'à un moment donné, je suis très frappé par une expression que l'évangile de Luc utilise à un moment donné quand Jésus prend la décision finale de monter vers Jérusalem. L'évangile dit « Jésus durcit son visage comme la pierre ». C'est-à-dire, il n'y a plus en lui aucune hésitation. Il n'y a en lui aucun tremblement, aucun doute. Il sait que c'est le chemin que le Père lui a donné de suivre. Il y a une forme de détermination. Et nous, dans nos vies, parfois on est engagé, des fois moins, des fois on se dit « pourquoi pas ?» Enfin bon, vous savez comment on est, on tourne en rond parfois avec nos propres questions. L'engagement d'un homme, d'une femme à la suite de Jésus dans la vie chrétienne ou dans le ministère n'est possible que parce qu'il y a eu un appel entendu qui vient de Jésus. Et que cet appel entendu, il fait écho, il fait corps, il s'harmonise avec la volonté de Dieu pour moi. La foi n'est pas une performance spirituelle, mais elle est une relation. Elle ne se réduit pas à un cri vers Dieu. Elle est plus forte que le doute parce qu'elle ne repose pas sur nous, mais sur Dieu. Le mot foi en hébreu, c'est un mot qui veut dire ce qui est solide. D'ailleurs, on le dit tout le temps dans nos prières. Quand on dit Amen, on dit c'est solide, c'est vrai, ça tient debout, ça va tenir la route. C'est ça que ça veut dire. Et c'est le même mot, hein, Emouna, Amen, c'est la même famille de mots, la même racine pour dire foi, et c'est solide, ça tient. C'est pas du tout aussi mouvant que les eaux du lac de Tibériade en cette nuit-là. La foi, elle est donc ce que Dieu va finalement nous donner pour pouvoir le suivre, la force qu'il va falloir que nous ayons pour pouvoir le suivre. J'aime beaucoup cette phrase de Luther, tout à l'heure on parlait... Du mouvement évangélique, et c'est vrai qu'il se rattache à la réforme, et Luther disait toujours que la foi n'est pas une œuvre humaine, elle n'est pas encore une bonne œuvre que l'homme pourrait s'appliquer ou se donner à lui-même devant Dieu, mais elle est un don de Dieu, et on le voit très bien dans ce texte. Si Jésus n'était pas venu à la rencontre de Pierre, il n'y aurait pas eu cette confession de foi à la fin, tu es fils de Dieu. Je terminerai en disant juste que nous aussi, nous sommes parfois sur une mer en tempête. Je pense que la mer, ce n'est pas seulement cette mer de Tibériade. Les Hébreux n'étaient pas de bons marins, ils n'aimaient pas du tout la mer, et la mer était pour eux le lieu obscur des forces du mal ou de tout ce qui pouvait être mauvais. Mais nous sommes aussi, nous marchons aussi sur d'autres mers qui peuvent être aussi des puissances de mal, de mort qui nous assaillent, nos peurs, nos fragilités, les épreuves, les inquiétudes, les angoisses. Et dans notre contexte actuel, entre la pandémie, les guerres, les difficultés économiques ou politiques que nous traversons, eh bien, ce récit offre aux chrétiens que nous sommes une parole qui peut nous rejoindre là où nous en sommes pour reprendre pied dans notre vie lorsque nous sommes malmenés par la peur. Au milieu de toutes ces interrogations qui sont la nôtre par rapport à un avenir plus ou moins incertain ou plus ou moins fragile, voici que Jésus s'avance, marchant sur toutes les peurs qui peuvent nous bouleverser. Et il ne fait pas que marcher, il rassure ceux et celles qui paniquent, en disant simplement « confiance, courage, n'ayez pas peur ». Et il manifeste alors cette lumière qui rassure, qui oriente, qui calme, qui consolide notre vie, notre être intérieur. Il est cette voix qui nous parle de la part de Dieu, nous rappelant que nous ne sommes jamais, mais jamais seuls. Nous sommes accompagnés si nous accordons à Jésus un tant soit peu notre confiance. Vous avez installé un nouveau pasteur dans votre église, et en tant que nouveau pasteur, avec Éric, Michaël est appelé à la suite de Jésus, à la suite et à cause de sa parole à lui, et il pourra guider ses frères, leur montrer le chemin, nous leur montrer la route, sans tout faire à leur place. Jésus n'a pas ramé avec les disciples. Il pourra les conduire en rappelant sans cesse non pas ce dont il est capable seulement, mais ce dont Jésus est capable au milieu de lui, au milieu de vous, en lui, en relayant sa parole, en la laissant retentir. Il pourra être un soutien pour celles et ceux qui chancellent et qui ont l'impression d'avoir souvent la tête sous l'eau ou de ne plus discerner entre leur peur et la réalité, de perdre confiance dans la parole sûre et fidèle de Jésus. Et c'est bien à travers tout cela que se forme un cœur de disciples pour chacun de nous. Et c'est pour cela que Dieu donne à son Église ces ministères dont nous avons besoin. J'aimerais, pour conclure, prier avec un texte très ancien, qui date encore d'avant la Réforme, un texte du VIe siècle, qui était destiné, cette prière était destinée à entourer les nouveaux ministres de l'Église qui se levaient pour servir. Et je le dis parce que cette prière est lue encore aujourd'hui, chaque jour, à midi, dans la communauté des diaconesses à Versailles et au Mazet-Saint-Voix. Et chaque jour, dans cette prière que les sœurs lisent pendant le temps de prière de midi, elles glissent un, deux, voire trois noms de pasteurs, membres d'une église, membre de la Fédération protestante de France, qui sont inclus dans cette prière. Et je pense que c'est un petit signe pour nous dire que, au-delà de nous-mêmes, de notre petite communauté, il y a des hommes, des femmes qui prient aussi pour nous, qui nous portent dans l'intercession. Et sans cette intercession, nous ne pourrions pas tenir debout. Je vous invite à la prière. Seigneur, Maître souverain et très clément, nous appelons ta bénédiction sur ton serviteur, le pasteur Michaël Lannes, que tu as choisi au nombre de ceux que tu as appelés. Qu'il soit sage et humble, appliqué à lire ta parole, fidèle à ton enseignement, grand par l'obéissance, docile dans la foi. Qu'il demeure calme sous les reproches, tendre dans la compassion prudent et zélé dans son travail, fort dans la tentation. Qu'il soit établi par ton esprit dans la paix, généreux dans le don de lui-même, assidu à la prière, efficace en miséricorde, bon envers les humbles. Seigneur, reçois avec bonté son offrande et comble son désir de te servir par toute sa vie. Au nom de Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen.